Bonjour à tous, Boker Tov, Shavua Tov. Alors là, je me suis lancé. Là, je vais vous dire, c'était pas prévu. Bremet, il y a 10 minutes, je me suis dit, mais tiens, j'ai envie de leur parler de ça. Et je vais vous parler de ça. Alors, de quoi parlons-nous? Bienvenue pour notre petit cours hebdomadaire. Et là, il faut qu'on en parle. On est dans cette période de Sfirat HaOmer, on ne va pas parler du Homer, ça y est, on a déjà beaucoup parlé. Non, on est dans une période très particulière, puisque dans cette période de Sfirat HaOmer, on est rentré, depuis quelques jours, dans la Shavua, cinquième semaine, Shavua de ce qu'on appelle Hod. Hod. Ah oui, la première semaine du Homer, c'est Chesed, ensuite on a Gevura, ensuite Tiferet, Netzar, Hod. Et Hod, eh bien, ça me titille. C'est un petit i parce que lorsqu'on regarde dans le Talmud, eh bien, on sait là-bas que par rapport au verset, l'Echa Hashem, Agedula, Vagevura, Vadiferet, Vanetzar, Vahon, eh bien, le Talmud va à chaque fois nous dire à quoi ça correspond. Et quand on sait que Netzar, ça correspond à Yerushalayim, à Jérusalem, eh bien, le Talmud dit que Hod, c'est le Beth Amikdash. Et donc, comme on est dans la Shavua du Hod, eh bien, je me suis dit, on va les emmener au Tioul, au Beth Amikdash. Allez, c'est parti pour... Alors, je ne sais pas si ce sera un cours, ce sera plusieurs cours, mais on va parler Beth Amikdash. OK ? Alors, regardez un petit peu mes mécorotes. Mes mécorotes, ben, il y en a plein. La première d'entre elles, c'est lui. Un album d'Astérix, on ne peut pas, évidemment, s'en passer. Des croquis. Nous avons également des livres extraordinaires. Le livre du Beth Amikdash du Rav Israël Ariel. Et... je ne sais pas si on l'utilisera dès le premier cours, mais vous inquiétez pas, car quand on parle de Tioul, faut aller jusqu'au bout. Et donc, à un moment donné, on ira au Beth Amikdash, Mamash, oui, maquette que j'ai fait moi-même, la folie. Alors, Bessel, venez, on va voir de quoi il s'agit. On va y aller, Léat, parlons un petit peu Beth Amikdash. Alors, ma première source, c'est une erreur. Voilà, je préfère lancer sur une erreur. Nous sommes donc dans Maseret Astérix, Maseret l'Odyssée d'Astérix, Perek, donc 26. Pourquoi je dis erreur? Eh bien, parce que c'est un épisode fantastique où nos héros vont arriver en Israël et l'erreur est là. Je vous le montre. Voilà. Nous avons ici une très belle planche représentant, vous l'avez vu, le Beth Amikdash dans toute sa splendeur. C'est très joli. Il a d'ailleurs très bien travaillé Uderzo pour faire ce dessin. C'est vraiment très, très, très ressemblant à ce qu'on pourrait trouver dans des encyclopédies et machin, ce que tu veux. Où est l'erreur? Eh bien, l'erreur est en début de Maseret. Puisqu'en début de Maseret, je le cite... nous sommes en 50 avant l'ère chrétienne. La Gaule est occupée par les Romains. Blablabla. Seulement, en moins 50, il n'y a pas encore le Beth Amikdash tel qu'on le voit dans la planche que je vous ai montrée. Et oui, en moins 50, je remets la plage, histoire que ça vous... voilà. Ça, c'est le Beth Amikdash que va construire Hérode. Et Hérode... le roi Hérode, Racha, Merusha, la Méhadrine, mais qui a construit des trucs de fou, y compris le Beth Amikdash, eh bien, Hérode ne montera sur le trône qu'en l'an moins 37, jusqu'en l'an moins 4. Et donc, c'est dans ce laps de temps, plus ou moins en moins 20, qu'il va construire le Beth Amikdash. Donc, moins 50 et cette photo, erreur. Bon, maintenant qu'on sait ça, on peut revenir aux fondamentaux. Ah, le Beth Amikdash, d'où ça a commencé cette histoire? Depuis quand le Beth Amikdash Zéaïnian? Eh bien, j'ai envie de te dire depuis le début. Eh oui, depuis le début de l'histoire, Akadosh Baruch Hu Rotze Mikdash. Alors, on pourrait se contenter de lire la Shirat Hayam. Teviemo vetitaemo be'ar nachalatecha machon neshivtecha pa'alta Hashem Mikdash. Hashem, konenu yadecha, Hashem, imloch, leolam, vaed. On dit ça à la fin de la Shira. Et donc, on sort d'Égypte et on sait très bien qu'il faut aller à la montagne de l'héritage, à Ramoria. Mais est-ce que ça n'aurait pas commencé avant? Eh bien oui, Rabotai, évidemment que ça va commencer avant. Quelle est notre première source qui nous relie au Beth Amikdash? Eh bien, dans le Talmud Yerushalmi, dans Maseret Nazir, chapitre 7, halakha 2, eh bien, on va nous raconter que Adam Arishon a été créé afar mina Adama, avait a été créé avec l'afar de Makom HaMizbeach, de Harabai, de Haramoria. Et c'est donc là-bas qu'il y a fait son premier korban. En d'autres termes, la première relation du Ham Israël en devenir, évidemment, avec cet endroit-là, eh bien, c'est tout simplement Adam Arishon. Alors, on ne va pas s'arrêter là, évidemment, puisque là encore, on va continuer dans l'histoire du livre de Bereshit, et on arrive à Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, tous les deux sont en train de faire un korban, alors que Caïn emmène des végétaux, c'est-à-dire la fin de sa récolte, Hevel emmène mi bechorot tsono. Et où ça se passe? Je viens de dire le Midrash dans Bereshit Rabba que l'endroit où ils vont faire les korbanot, tout naturellement, c'est à l'endroit où leur père avait fait son korban, Behar HaMoria. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Ben évidemment, lorsque plus tard, Noach sort de la Teva, eh bien, on nous dit dans le verset, Vaiven Noach Misber la Hashem, Vaikor Mivikar Mikola Behemot Ateorot Vechule. Eh bien, on aurait pu supposer que ce Misbéar que va faire Noach, c'est sur les monts Hararat. Bah oui. Bah oh, parce que c'est là que l'arche s'est déposée. Seulement, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, au chapitre 23, eh bien, on nous dit que pas du tout. Har HaMoria, à ce moment-là, a sauté pour arriver sur les monts Hararat pour que le Misbéar soit fait là-bas. Encore une fois, le Midrash n'a pas vocation historique, forcément. Le Midrash veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner que dans la tradition d'Israël, seul le rapport avec le mont du Temple est important. Alors après, on avance dans l'histoire et on arrive évidemment à Avraham Avinu. Vous connaissez l'histoire. Avraham Avinu, Behar HaMoria, cette fois c'est clairement, officiellement dit, va amener Yitzhak pour la Lototo Leola. Nous dit Razal à ce moment-là qu'il a vu, quand il est monté, qu'il a vu Anan Kashur Alahar. Il a vu cette Shrina qui a été attachée à cet endroit-là. Yitzhak également l'a vu. Rodaï, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? On parle de l'attachement des prémices de la nation juive à cet endroit-là. Je tiendrai simplement à préciser une chose. Parce que si vous allez me dire que Adam, Caïn et Hevel, Noach, c'est pas très juif tout ça, c'est plutôt humain. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Zéchelanou. Alors, Avraham et Yitzhak, Barour, que se passe-t-il avec Yaakov? Noah, ben avec Yaakov, c'est Barour. Bien sûr, puisque Yaakov va s'arrêter à Bethel pour dormir, va avoir son rêve. Il nous dira tout simplement le Midrash Bereshit Rabba que là aussi, Har HaMoria est arrivé. En d'autres termes, toute la tradition juive nous relie au mont du Temple. Et je tiens à préciser qu'au moment où Yaakov vit, au moment où Yaakov vit, on est au 17e siècle avant l'ère chrétienne. Non, c'est important de le savoir parce que ça veut simplement dire qu'au moment où Yaakov vit déjà le rêve au Har HaMoria, bon, j'ai envie de te dire que le petit Jésus, il viendra au monde que dans 1700 ans. Et Mahomet, je t'en parle même pas. Il viendra au monde dans seulement 2300 ans. C'est-à-dire qu'on est attaché dans le peuple juif au mont du Temple quelques 2300 ans avant que l'islam ne commence à exister. Ouais, bon, vous avez compris. Bon, à ce moment-là, ben, notre relation, elle est clairement établie avec le Mikdash. D'abord, on va faire le Mishkan dans le désert. Je ne vais pas m'attarder sur le Mishkan. Après, le Mishkan va arriver à Shiloh, le Seder. Mais je voudrais arriver directement au Beit HaMikdash chez Shlomo HaMelech. J'arrive directement au Beit HaMikdash de Shlomo, parce qu'on a parlé de Tioul dans le Mishkan, dans le Mikdash et pas dans le Mishkan. Donc, ce qui m'intéresse, c'est Har HaMoria. Donc, les moments où le Mishkan était dans le désert ou à Shiloh, pour l'instant, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dans le Sefer Shmuel, livre de Samuel, au chapitre Shmuel Aleph, je dis n'importe quoi ce soir, nous dit la chose suivante. Védavid barar veimalet veavo el Shmuel. Lorsque David fuit Shaoul, il arrive chez Shmuel et ensemble, eh bien, il va tout simplement dessiner les plans du Beit HaMikdash, celle qui est mentionnée dans Maseret Zvachim, à la page 54. On dessine les plans du Beit HaMikdash. On peut le représenter par cette illustration du Machon HaMikdash. On peut voir le David et Shmuel en train de, bah, de mettre en place les fondamentaux du Beit HaMikdash. Lorsqu'il fuit Shaoul, c'est le début des plans, mais ce sera beaucoup plus tard que lorsque finalement David voudra construire le Beit HaMikdash, que Shmuel lui dira « c'est pas possible, ce sera ton fils », qu'il mette en place les fondations qui vont permettre finalement à Shlomo de construire le Beit HaMikdash. Et là, eh bien, c'est parti les amis, inauguration du Beit HaMikdash de Shlomo. Et là, je me permets de vous montrer cette illustration, mais cette illustration est tout sauf réelle. Nous n'avons aucune idée de à quoi ressemblait le Beit Rishon, le premier temple de Salomon. Nous ne savons pas. Pourquoi nous ne le savons pas ? Ben, personne n'en a fait les dessins, personne n'en a fait la description détaillée. Donc, on ne sait pas exactement à quoi ressemblait le Mikdash de Shlomo. Ce dessin que je vous ai montré, c'est une extrapolation par rapport aux différents temples de l'époque de Shlomo et par rapport aux informations qu'on a dans le Tanakh. Parce qu'on a quelques informations. On a les dimensions, par exemple. On sait également que dans la cour, il y avait un grand réservoir d'eau qui s'appelait Yam Shel Shlomo, qui était soutenu par 12 taureaux d'or. Nous avons également comme information une information très importante. À l'entrée du Beit HaMikdash de Shlomo, il y avait deux colonnes que je vais vous remontrer ici, vous pouvez les voir, voilà, qui s'appelaient Yachin et Boaz. Yachin et Boaz. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est Yachin et Boaz ? Boaz, c'est le premier maillon de la dynastie royale. Boaz étant le mari de Ruth, étant également donc l'arrière-grand-père du roi David, Yachin, c'est Yehoyachin, le dernier roi de Judée, de la dynastie de David jusqu'au Melech HaMashiach. Tu seras gentil, Shira, de ne pas toucher. Voilà. Yachin et Boaz sont donc à l'entrée du Beit HaMikdash, deux colonnes qui servent de repère pour nous expliquer que la royauté d'Israël, eh bien, nous permet d'entrer au Beit HaMikdash. Vous êtes peut-être déjà demandé, vous avez peut-être déjà vu comme ça des gens orthodoxes, chassidim, dans la rue, qui se baladent avec des guirlandes, avec de la payus de Ligue des Champions, alors que d'autres n'en ont pas. Et d'autres en ont des petites, genre derrière les oreilles, genre comme moi, comme ça, derrière les oreilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Oui, vous allez me dire quel rapport avec le Beit HaMikdash ? Eh bien, je vais vous le dire. D'abord, d'après la halakha, il n'y a pas besoin d'avoir de péot. Tu ne coupes pas simplement complètement ici. C'est bon, ça suffit. Donc, toute personne qui a des cheveux normaux jusqu'à l'os ici, ne serait-ce qu'un petit peu, il a fait ce que la halakha lui a demandé. Mais d'après l'enseignement de la Kabbalah, le Gaon de Vilna va nous enseigner quelque chose, comme quoi les cheveux, c'est Midat Adin, qu'il faut être capable, la justice, la rigueur, parce que les cheveux, ça ne ressent pas, ce n'est pas le sentiment, c'est la rigueur. Et que donc, il faut faire pousser un petit peu ce midatadin, parce qu'il faut vivre sa vie selon la justice. Seulement, c'est pour toi, c'est pas pour les autres, donc tu le caches. Tu le caches, mais il ne faudrait pas que ça dépasse le lobe de l'oreille, qui lui aussi représente la rigueur. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de rigueur. Donc ça, c'est l'ambiance du Gaon de Vilna. Pour les chassidim, eh bien, il y a une toute autre explication. Alors, complètement différente. Mon fils, d'ailleurs, mon fils aura choisi de ne pas suivre l'exemple de son père. C'est-à-dire qu'il n'a pas de péote comme les miennes derrière les oreilles. Mon fils, depuis qu'il est né, il a maintenant 9 ans, on ne lui a jamais coupé les péotes. Il ne veut pas. Et il a donc des guirlandes, mamache guirlandes, les rouflaquettes, comme on dit. Et depuis qu'il a appris la raison de ce minag, eh bien, il veut encore moins les couper. Nous dit le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Milijan, c'est un des grands maîtres de la Chassidout, que depuis que le Beth Amikdash de Shlomo a été détruit, il n'y a jamais eu vraiment de retour de la Shrina comme elle était à l'époque. Et ce ne sera que lorsqu'on reconstruira le troisième Beth Amikdash que la Shrina sera à pleine puissance, si je puis dire, comme on pouvait la voir à l'inauguration du Beth Amikdash de Shlomo. Dit le Noam Elimelech, donc, eh bien, depuis la destruction du Temple, c'est à l'homme de devenir Mikdash Mead, de devenir un petit peu le Beth Amikdash tant qu'il ne peut pas retourner véritablement en Mikdash. Et donc, il se fait pousser deux colonnes, Yachin et Boaz, à l'entrée de son visage pour qu'il bémette ce rappel d'être lui-même un Beth Amikdash. En d'autres termes, les chassidim qui ont des colonnes, c'est Zecher le Beth Amikdash. Ça, c'est le Beth Amikdash de Shlomo. Le Beth Amikdash de Shlomo, malheureusement, sera détruit. Ce qui nous amènera à une période de 70 ans, on n'aura pas de Beth Amikdash. Finalement, Ezra, Nehemia, on va reconstruire le Beth Amikdash, mais ça sera un Beth Amikdashouné, un petit Mikdash. Il n'y a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de possibilités. Petit Mikdash, c'est mieux que rien. Lorsque les Hashmonaïm de Hanouka vont battre les Grecs, ils vont agrandir un petit peu le Beth Amikdash. Et ça ne sera toujours pas la folie, la folie. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre longtemps pour que le roi Hérode, Racha Merusha, si tant est, mégalomane au possible, décide que tout ce qui est associé à son nom doit être grandiose et que donc, eh bien, il construise le Beth Amikdash, du moins reconstruise le Beth Amikdash, du moins fasse des vrais travaux au Beth Amikdash pour en faire quelque chose d'énorme. Alors la Guémara a un avis un petit peu plus sympathique, nous disant que ce qu'il a amené à faire Teshuvah par rapport au Beth Amikdash, c'est une altercation qu'il a eue avec Baba Ben Bouta et finalement, eh bien, notre Rav, notre Chacham, lui a dit que lui, Hérode, ayant éteint la lumière d'Israël puisqu'il a fait massacrer la moitié des rabbins, doit la rallumer en construisant un Beth Amikdash de folie. Benkar ou Benkar, finalement, Hérode va construire un Beth Amikdash de fou furieux. Ah, de fou furieux! À tel point que nos sages qui n'aiment pas Hérode vont dire cette phrase bien connue, « Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a pas vu une belle construction. » Non, ce n'est pas que les sages d'Israël. Du monde entier, on vient voir le Mikdash de Hérode. C'est incroyable. Les gens sont absolument subjugués par la beauté architecturale et donc ça les amène à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y cache, à tel point que les Romains diront des Juifs qu'il y a trois choses en Israël qu'il n'y a nulle part ailleurs. Une mer où on ne s'enfonce pas, Yam HaMelach, un jour où on ne travaille pas, Shabbat, et le temple de leur Dieu dans lequel il n'y a pas d'idole de Dieu. Maintenant, les amis, le Beth Amikdash. Celui qu'on connaît bien, c'est le Beit Sheni. Pourquoi on le connaît bien dans ses moindres recoins? C'est là que je me ramène avec ma maquette. Pourquoi on connaît le Beit Sheni dans ses moindres recoins, les amis? Tout simplement parce que nous avons un homme qui a bossé au Beit Amikdash, qui était Cohen, qui bossait au Beit Amikdash et qui a décrit chaque centimètre du Beit Amikdash dans son livre. Il s'appelle Flavius Joseph. Et donc, nous avons tout simplement une description parfaite. En plus, elle correspond totalement à ce qui a marqué dans la Mishnah, dans Maseret Midot. Donc, nous avons ici le Beth Amikdash. Mais deux secondes, avant de rentrer dans le Beth Amikdash lui-même, nous avons quand même quelque chose à comprendre. Comment faire un énorme Beth Amikdash? Et pourquoi ils n'ont pas fait, Shlomo ne l'a pas fait avant? Parce qu'il faut bien comprendre que le Beth Amikdash de Shlomo, comparé à celui de Hérode, il est tout petit. Il est un tiers seulement du Beth Amikdash de Hérode. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à faire quelque chose de grand avant? Eh bien, pour une raison très simple. La raison très simple, elle s'appelle Har Amoria. Vous avez ici une illustration de Har Amoria. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est une montagne. Une montagne, ça finit comme ça, ou comme ça, l'homme chané arrondi, l'homme chané. Ici, vous voyez que la montagne, elle n'est pas très spitz, mais c'est une montagne quand même. Ce qui fait que le Beth Amikdash, il doit être construit là. Donc, tu n'as pas une place énorme. Tu as la place qui est là. C'est tout. Donc, le côté pointu de la montagne ne permet pas une grosse construction. Hérode, il n'aime pas ça. Donc, il y a deux options. Soit je coupe la montagne complètement, comme ça j'aurai une grande surface, mais ça, Hérode, il comprend que ça va être chaud patate. Donc, il utilise une deuxième technique. Et la deuxième technique, c'est quoi? Je vais construire autour de ma montagne. Vous voyez, le haut de la montagne, il est toujours là. Et autour de ma montagne, je vais construire quatre murs énormes. Quatre murs énormes qui vont entourer ma montagne. Une fois que j'aurai construit mes quatre murs, je vais remplir le centre pour y créer une surface plane, énorme, une esplanade, le mont du temple. Vous comprenez qu'on est quand même sacrément loin de ça. Nahon, et vous avez vu où je veux en venir. Ces quatre murs énormes, eh bien, il y en a un qu'on connaît très bien. Il s'appelle le Kotel Amaravi. Et là, j'aimerais lever le voile. Si ça, c'est ma maquette du Beth Amikdash, disons que je pose mon Beth Amikdash ici. OK? Je pose comme ça. Vous voyez donc le Beth Amikdash bien. Si ça, c'est le Beth Amikdash et que je suis à l'échelle, où est le Kotel? Vous savez, le Kotel où on va prier, le Kotel que vous connaissez. Où il est? Si ça, c'est le Beth Amikdash, Rabotai, le Kotel, il n'est même pas sur l'écran. C'est-à-dire que si ça, c'est le Beth Amikdash, je vais essayer de reculer pour quand même le mettre dans l'écran. Si ça, on dit que c'est le Beth Amikdash, le Kotel Amaravi, il est là. Pour être exact, il est même là. Comprenez-moi bien. Lorsque Hérode va construire ces quatre murs énormes, eh bien, au milieu de ces quatre murs énormes, il va construire le Beth Amikdash. Le Kotel Amaravi n'est pas un mur du Beth Amikdash. Eh bien oui, désolé. Le Kotel Amaravi n'est qu'un mur de soutien pour l'esplanade sur laquelle il y a le Beth Amikdash. Zéro Gdusha propre au Kotel lui-même. Donc non, ce n'est pas un vestige du Beth Amikdash. Il y a un autre truc qu'on dit qui est faux, ce n'est pas le dernier vestige. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les quatre murs existent. Les quatre! On peut très bien voir le Kotel Amaravi, bien sûr. On peut très bien voir également le Kotel Dromi. Vous pouvez le voir quand vous allez aux fouilles du centre Davidson. Le Kotel Est et le Kotel Nord ne sont pas accessibles parce qu'il y a des maisons qui sont dessus, mais ils sont là. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire que l'Ozaza Shrina met à Kotel Amaravi? On ne parle pas du Kotel Amaravi que nous on connaît, mais on parle de ce Kotel Amaravi du Beth Amikdash qui a été détruit. Mais il n'empêche que la Shrina n'y est pas partie. Ce qui amène le Rambam à dire ce qui amènera le Rambam à dire Afalpi sheshomemim bikdushatam emomdim. Bien que les murs soient détruits du Beth Amikdash, eh bien la Kedusha, elle réside encore. C'est ce qui m'amène finalement à rentrer dans le vif du sujet, à rentrer au Beth Amikdash. Il est temps qu'on rentre dedans, dans le Beth Amikdash, Rabotai. Allons-y, j'ai envie de te dire. Attends, on ne peut pas encore rentrer tout de suite au Beth Amikdash. On ne peut pas encore rentrer tout de suite dans la maquette. Non. Avant de rentrer dans la maquette du Beth Amikdash, il y a encore quelque chose à vérifier. Les pourtours du Beth Amikdash. Je monte sur le mont du Temple à l'époque. Lorsque j'arrive sur le mont du Temple, donc je monte par un système d'escaliers, de souterrains que Hérode a mis en place, qui vont permettre tout simplement aux juifs et aux non-juifs qui vont monter à ce moment-là d'être subjugués par cet éclat extraordinaire du Beth Amikdash. Quand tu arrives comme ça du bas, tu vois tout d'un coup se présenter devant toi la construction majestueuse, je dis bien majestueuse, 20 000 ouvriers, 13 ans de construction, truc de malade. Des pierres qui peuvent faire jusqu'à 550 tonnes la pierre. Ah non, truc de ouf. Lorsqu'on arrive à ce moment-là, eh bien, lorsque tu pénètres dans l'esplanade, ce fameux endroit, le Beth Amikdash est au centre, mais pour l'instant, eh bien, peuvent monter là-haut tout le monde. Et les juifs, et les non-juifs. Pour ce qui est des juifs, il faut d'abord qu'ils aillent faire trempette au mikvé, parce qu'il y a une dimension de tahara qu'il faut lorsqu'on arrive à la source de vie. Donc, lorsqu'il s'agit de monter sur le Har HaBayit, il faut d'abord aller, bien évidemment, au mikvé. Mais les non-juifs qui y viennent ne sont pas en reste. Parce que les non-juifs qui viennent, ils veulent s'émerveiller également de l'éclat, ils veulent peut-être également aussi amener un korban. C'est pour ça que, avant de rentrer dans le Beth Amikdash, eh bien, il y a tout autour du Beth Amikdash, alors pas dans le premier temple, et pas non plus dans les premières années du deuxième, mais à la fin de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire à l'époque du temple de Hérode, eh bien, on va construire, je vais vous le retrouver ici dans mon illustration, on va construire ce qu'on appelle la Sorag, Reil, une espèce de petite barrière qui va tout simplement, qui va tout simplement montrer la séparation qu'il y a entre juifs et non-juifs. Cette règle, alors attendez, je suis vraiment désolé, j'aurais dû préparer ça mieux, j'aurais dû mettre déjà un marque-page. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Hop là. Donc, dans mon illustration, toujours illustration du Machon Amikdash, eh bien, vous pouvez voir ici, hop là, vous pouvez voir ici ce petit muret qui entoure tout le Beth Amikdash. On voit bien l'esplanade et on a ce muret blanc avec des ouvertures qui entoure tout le Beth Amikdash. Dans ce petit muret, il y avait donc des ouvertures dans lesquelles il y avait marqué une inscription en anglais de l'époque, c'est-à-dire en grec, qu'on a retrouvé, sur laquelle il y avait marqué qu'à partir de là, seuls les juifs avaient le droit de s'aventurer, de s'avancer. Mais peut-être qu'un goy voulait arriver ici pour donner un corban à Dieu. Donc, il y avait un Cohen, toujours, qui était aux ouvertures pour récupérer les corbanotes des non-juifs, si jamais il voulait. Parce que le non-juif ne pouvait pas rentrer dans le Beth Amikdash, mais il pouvait y donner un corban et il sera offert en son nom. Ce Reil-là marquait la séparation entre juifs et non-juifs. C'est la première séparation qu'on va trouver dans le Beth Amikdash. Car lorsqu'on va rentrer dans le Beth Amikdash, plus on va y rentrer, plus on va voir qu'il y aura des séparations. Est-ce que c'est vrai que dans le Beth Amikdash, les femmes ne peuvent pas rentrer ? Est-ce que c'est vrai que les Kohanim sont les seuls à pouvoir pénétrer dans le grand bâtiment ici ? Est-ce que c'est vrai que seul le Kohen Gadol peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim ? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous répondrons la semaine prochaine dans la visite au Beth Amikdash, deuxième partie. À bientôt.